Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Pierre de Villeneuve.
Dernière partie des grandes voix avec Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Le bleu et le jaune du drapeau ukrainien de retour hier sur les bâtiments de la ville de Kherson. L'hymne officiel ukrainien retentit pour la première fois depuis 8 mois. Une victoire importante selon la diplomatie ukrainienne après l'annonce du retrait russe du nord de la région. C'est le tournant que tout le monde attendait, Charles Villeneuve.
Oui, en tout cas, ce qui vient de se passer à Kherson, qui est la seule capitale, faut-il encore le rappeler, régionale, à avoir été conquise par les Russes depuis le début de la guerre, le 24 février dernier, et que Poutine avait décrété qu'elle serait russe pour toujours, est un aveu indéniable de faiblesse de l'armée russe et un revers très douloureux pour Moscou et qui peut générer une crise politique. Les Russes ont pris en compte leur infériorité militaire complète devant les armements qui ont été livrés par les Occidentaux et essentiellement par les Américains aux Ukrainiens. Et il faut aussi dire que le commandement ukrainien bénéficiait des renseignements en direct à la centre d'opération des armées à Kiev, où se tient le chef d'état-major. C'est le renseignement satellitaire de la National Security Agency, parce que quasiment tout le dispositif militaire russe était filmé, observé, analysé en permanence, en direct, à la salle d'opération des armées de l'armée ukrainienne. Et je voudrais juste remarquer que le retrait des 30 000 soldats russes s'est fait sur la rive est du Dniepr. Ils ont pratiquement tous traversé par un jeu de ponts flottants et de barges. C'est une retraite extrêmement technique, très difficile
très
à réaliser. Elle l'a été. Et puis aussi, un autre fait qu'il faut observer et remarquer, c'est que sur la plupart des mobilisés qui ont été formés ou entretenus, en tout cas sur le plan de l'utilisation de l'armement des Russes, très peu vont au feu. Très peu acceptent d'aller à la mitraille, notamment dans l'est de l'Ukraine.
Michel Cotta.
Mais c'est vrai qu'effectivement, on réfléchit tous, et c'est ça qui est notre grande surprise, c'est la faiblesse de l'armée russe. On avait connu la faiblesse de l'armée russe lorsqu'ils ont fait le retrait d'Afghanistan. Vous savez, où on a vu des soldats en guenilles regagner Moscou, mais on pensait que dans l'intervalle, quand même, Poutine avait dit qu'il modernisait son armée. Voilà. On est... Bon, moi, je retiens quand même une interview, je ne sais pas si vous avez vu ce reportage d'Anniva, sur je ne sais quel poste, qui était en poste, qui a eu le droit d'aller à Moscou. Et qui dit qu'à Moscou, elle passe de l'autre côté du miroir. C'est-à-dire qu'elle ne voit pas du tout venir, au contraire, des contestations contre Poutine. Et elle voit, au contraire, des gens disant « Poutine, un, a montré que, internationalement, il pouvait exister. Deux, il a divisé l'Europe. Et trois, on s'en sort très bien avec notre... » Alors, c'est ça qui fait peur. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, d'un côté, du côté russe, après tout, ils se disent... pas obligé.
Le narratif a bien marché.
Le narratif a très bien marché. Et que du côté ukrainien, il marche bien parce que militairement, ça va bien.
Mais les deux choses sont sans doute vraies.
Oui.
Moi, je crois volontiers cette description par Anniva de l'opinion de la société russe, qui doit toujours penser, c'est pour ça qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions tout de suite, qui doit toujours penser que c'est un grand chef et que peut-être il va éventuellement marquer quelques points après. Ouais. Mais ce qui me frappe, moi je connais bien l'armée américaine, et je ne pensais pas qu'il y avait un tel... décalage, un tel différentiel de technologie entre l'armée américaine d'aujourd'hui, pour qui on met beaucoup de millions de milliards de dollars, et l'armée. Je pensais que D'ailleurs, on nous avait un peu fait croire ça, que depuis la chute du mur, où l'armée russe était complètement... les bateaux pourrissaient dans les ports, etc., que Poutine avait injecté beaucoup d'argent et qu'il avait de la technologie, etc., qu'il avait recréé une armée. C'est pas vrai, finalement. On a la victoire là, d'une armée américaine par procuration.
Bien sûr.
C'est pas les soldats, mais par procuration. C'est l'armée américaine qui gagne la guerre par sa technologie, ses moyens de renseignement, de contrôle, sur une armée russe qui part bien des côtés, pas tous les côtés, mais par un certain nombre de côtés, ressemble plus à une armée des années 50, une armée de Deuxième Guerre mondiale.
Catherine.
Oui, on attendait la bataille de Kherson, elle était très redoutée. On se demandait quel piège il y a eu et comment, si les Ukrainiens entrent, ils vont être attaqués. Or là, ils sont entrés... mais il n'y avait plus personne. Et moi, j'ai été étonnée de voir cette liesse de la population et qu'il y avait tellement de monde qui est sorti dans les rues, qui faisait la fête hier soir. Bon. Or, Kherson, c'était il n'y a pas de temps, au Kremlin, Poutine avait salué l'annexion de Kherson quand même. Et que c'était et hier encore, alors que les résultats que l'on sait, Preskov disait, mais non, ça fait partie toujours de la Fédération de Russie. Alors, c'est vrai que je comprends après que les Russes pensent que tout va bien pour la Russie avec ces témoignages de Kherson. Mais ce qui est intéressant, et c'est pour ajouter ce que tu disais, c'est la différence de matériel et de capacité de l'armée à se défendre, c'est qu'alors que les combats se continuent un peu plus loin à l'est et à Kharkiv, eh bien les renforts qui sont arrivés ne servent à rien. Voilà, c'est ce qui étonne les Ukrainiens, c'est que comme Gérard, tu dis, Charles, ils ne veulent pas se battre, et ça, on en a la démonstration.
Il y a une chose qu'il faut rappeler par rapport à tous les reportages qui peuvent être faits à Moscou et ailleurs. C'est l'empire du mensonge et de la terreur, quand même, aussi, Moscou.
Il ne
faut pas oublier le nombre de journalistes qui ont été tués de 3 balles dans le dos chaque fois qu'ils ont voulu rapporter des faits authentiques. Il y en a 37 de journalistes qui sont morts à Moscou ou alentour. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et donc, en ce qui concerne la manipulation et la terreur qui est injectée en permanence dans la vie quotidienne de pas mal de Russes qui ont envie aussi de savoir des choses, il ne faut non plus pas l'oublier. Et dans tous les pays de système politique de ce type, autocrate, des défaites militaires ou les revers militaires ont toujours généré des crises politiques. Toujours. Ça aussi, c'est une constante.
Et une des conséquences aussi, conséquence secondaire, mais moi je l'ai trouvé dans le discours sur l'armée d'Emmanuel Macron. Il n'a pas annoncé de mesures précises, mais en tout cas, ce qu'il a dit, c'est que désormais l'Europe doit se préparer à être en état de guerre. Et moi, ça m'a fait un choc formidable, parce qu'au-delà de l'Ukraine, au-delà de la Russie, quand le président de la République en a dit « il faut étoffer » nos moyens militaires, alors que je vous rappelle que les moyens militaires ont augmenté régulièrement, tandis qu'ils avaient baissé sous Hollande et sur Sarkozy. Donc, à mon avis, quand même, il y a une humeur particulière de l'Europe qui fait que cette guerre a beaucoup plus d'influence qu'on le croit sur le comportement, y compris le comportement économique, le comportement moral de toute l'Europe.
Oui, mais elle consacre en même temps la prépondérance absolue américaine sur l'Europe, qu'on le voit sur chacune des décisions.
Il suffit de regarder les chiffres.
Chiffres. Et une armée allemande qui va se reconstituer, mettre beaucoup d'argent, elle va se faire en achetant des matériels américains, comme les Estoniens, comme les Polonais.
C'est pour ça que la victoire de Poutine sera peut-être la chute de l'Europe, d'ailleurs.
Il y a aussi un autre phénomène quand on regarde une carte. On s'aperçoit que, jusqu'à présent, évidemment, la mer Méditerranée était otanisée, mais pas la mer Baltique, qui est en train de s'otaniser complètement. Et il y a une autre mer qui s'est fermée, qui est une mer, évidemment, qui permet aux Russes d'avoir accès au détroit de Dardanelles et d'avoir accès aux mers chaudes, c'est la mer Noire. Or, la mer Noire, aujourd'hui, elle est morte, quasiment. C'est-à-dire qu'elle est neutralisée. Donc, il y a un encerclement de la Russie indéniable quand on regarde la carte. La deuxième chose, parlant de ce que disait Catherine et aussi Michel, c'est qu'on s'aperçoit à travers cette guerre et Russie-Ukraine que la guerre de haute intensité, c'est-à-dire d'un modèle qui ne ressemble à aucune armée européenne, et pas du tout à l'armée française, qui est une armée, si vous voulez, d'opération extérieure, et donc sur un court temps, un court terme, que c'est cette armée, que cette arme, ce modèle d'armée, eh bien, doit de toute façon transformer les armées européennes.
Merci les grandes voix.